Bretagne 5, écoutez la Bretagne.
Bonsoir, la plume est à vous, Michel Philippot. J'ai le plaisir de vous retrouver au micro de Bretagne 5 en ce dimanche soir. Merci d'être fidèles et de plus en plus nombreux à ce rendez-vous dominical. Rythmé par le passage du temps et le décompte des heures, des minutes, puis des secondes, c'est une bien curieuse nouvelle de Jean-Paul Delessart que vous allez entendre ce soir. Dans ce texte fort bien construit, c'est de l'intérieur que le lecteur est amené à suivre ce récit, découvrant progressivement la tragédie vers laquelle personnages et lecteurs sont inexorablement happés, sans en avoir la moindre conscience et sans se rendre compte qu'ils entrent ainsi dans l'histoire de ce siècle. Je tairai donc pour le moment et par discrétion le titre que l'auteur a choisi de donner à ce récit, afin d'en préserver toute la charge émotionnelle. Laissez-vous baigner par l'illustration sonore, création du compositeur américain contemporain John Adams. Une musique composite qui peut surprendre, mais qui prend tout son sens au fil de la découverte du récit.
Merci.
John Florio, Christina Flannery.
Missing.
John Florio, Christina Flannery.
Missing.
John Florio, Christina Flannery.
6h46min 10s. Comme chaque matin, mais c'est pire encore aujourd'hui, Bunny finit de s'habiller dans le hall de Grand Central. Pour le moment, sa cravate est éternellement mal ajustée, le souci moins que ses lacets défaits ou approximativement noués. Pour le reste, pour ce col de veste retourné et ses deux ou trois boutons de chemise pas encore attachés, il verra ça dans le wagon. Quant aux épis qui hérissent sa tignasse d'un joli blond cendré, eux attendront les toilettes du bureau. Les lacets ? Non, les lacets ne peuvent plus attendre. Ils traînent dans la poussière et ce sont un piège connu pour avoir fait trébucher nombre de marcheurs trop pressés. Pris dans le courant chargé d'hommes et de femmes qui l'entraînent vers le départ de la ligne 6, il peine à trouver le havre de paix qui rende l'opération possible sans risquer le piétinement au mieux, l'écrasement au pire. C'est lassé, relassé, te voilà délassé, lui aurait dit son père qui adorait les jeux de mots vaseux. Bunny reprend sa route au cœur de la mêlée qui chaque matin et chaque soir, comme un vaste fleuve, s'écoule entre les piliers de l'immense gare new-yorkaise. 6h57min 13s. Bunny est né dans cette ville, n'en connaît, et beaucoup moins bien que deux ou trois autres, aime celle-là, au-delà du raisonnable, et n'imagine même pas devoir un jour la quitter. Cette ville dont il ne saurait dire à quel quartier vont ses préférences. Il lui semble en percevoir les moindres vibrations, en capter les humeurs, être entré en résonance avec elle, et ce, depuis que, dans une clinique de Brooklyn, il y a vu le jour. Cela fera 22 ans demain. Jean-Michel Duparc, fils d'un couple de diplomates français en poste au siège de l'ONU, est né à New York et n'en a pour ainsi dire plus bougé. Le retour de ses parents dans leur contrée hexagonale, malgré l'insistance de ces derniers, n'a pas suffi à le convaincre de rejoindre une patrie dont les contours lui sont par trop abstraits. C'est à l'université, où il suivait assez poussivement un master d'économie qu'il a hérité de ce surnom de Bugs Bunny, surnom qu'il doit principalement à une rangée d'incisives bien alignées mais juste un peu trop longues. Celles-ci, qui débordent anormalement sur la lèvre inférieure, donnent, c'est vrai, et à beaucoup, cette idée d'une ressemblance avec les représentants de la famille des lagomorphes. Mais ça n'est pas là la seule particularité de sa dentition, et ça n'est pas à cela qu'il doit ce rapprochement si souvent fait. À celle-ci s'ajoute une curieuse mobilité du visage, et notamment de sa partie inférieure, qui inspire à beaucoup de ceux qu'il rencontre le même genre de comparaison. Au sortir de l'enfance, quand avec la férocité propre aux gamins, commencèrent à pleuvoir les moqueries et les allusions de moins en moins discrètes, Jean-Michel traversa une période difficile. Sans l'aide et la bienveillance de ses parents, sans doute fut-il resté marqué à jamais par cette disgrâce physique, certes mineure, mais suffisante pour perturber la construction d'une personnalité pas spécialement vaillante. Mais il faut croire qu'il est donné à certains de tirer parti de leurs différences, fussent-elles d'ordre physique. Ceci permet alors à ceux qui le sont, les victimes, de ne pas accorder aux lazis qu'ils reçoivent plus d'importance que n'en a pour le canard l'eau qui glisse sur ses plumes. Jean-Michel, lui, joua le jeu. On voulait voir en lui quelque chose d'un lapin. Eh bien, lapin, il serait. Exagérant ses traits, comme les mouvements de son menton, il endossa pleinement le rôle et, sans avoir à s'équiper de la paire d'oreilles qu'il supposait, ce rôle, eh bien, il le joua avec constance et application. Le résultat fut qu'il habita ce rôle de composition avec assez de bonheur pour se bâtir une personnalité propre, drôle et attirante. Bunny n'était certes pas non plus pris très au sérieux, mais apprécié, comme un chic type auquel on pouvait demander n'importe quel service, toujours de bonne humeur, fantaisiste en diable. Sa bonne frimousse de rongeur pointant vers l'avant, Bunny suscite la sympathie, obtient le plus souvent le pardon de ses chefs de la Melville Incorporated Limited pour ses bêtises à répétition, ses multiples étourderies et le temps que ses facéties font perdre aux autres employés. Il est même arrivé, c'était au début de cette année, que ce vachard de Bob Malcolm, chef de la division sinistre, lui fasse parvenir ce genre de SMS. En raison d'un surcroît de travail, Monsieur Jean-Michel Duparc est prié de ne pas se présenter au bureau aujourd'hui. Ah, cela avait beaucoup fait rire dans l'open space et conforté Bunny dans son rôle d'histrion sympathique. Les femmes en particulier, l'adorent, mais ça n'est pas tant l'homme qu'il est qui lui vaut leur faveur que cette personnalité attachante, insidieusement proche de celle d'un charmant animal de compagnie. Bunny souffre moins de ce qu'il représente pour ces dames, ce qui ne lui échappe pas, qu'il ne profite de leurs attentions maternelles et du plaisir qu'elles lui donnent en riant si spontanément de ses pitreries.
7h, 38 minutes, 23 secondes.
Jean-Michel arrive à peu près fagoté au pied de la tour, enfin à sa façon, qu'on pourrait dire brouillonne et ébouriffée. Les choses ce matin ne lui semblent pas à leur place. Dans le métro tout à l'heure, il a cherché sans succès une tête connue, celle de l'un de ces voyageurs qui empruntent la même rame aux mêmes heures. Personne. Et maintenant, voilà que cet animal de Christopher, bouffi dans ses 200 livres de graisse, n'est pas là, planté devant l'entrée pour le saluer de son sempiternel « Quoi de neuf, docteur ?» Sur quoi il se lâche dans un rire de titan et lui broie la main. Cela fait presque 2 ans que l'énorme portier haïtien lui joue chaque matin la même petite comédie qui l'agace, à peu près autant qu'elle lui manquerait si elle devait cesser. C'est un white, un blanc, aujourd'hui, qui est en faction. Bunny ne l'a jamais vu pour cette raison. Cela lui était sorti de l'esprit qu'il a plus d'une heure d'avance sur son horaire habituel, qu'il s'est arraché bien péniblement à son lit et qu'il n'a consenti à cet effort insensé que pour s'éviter la remontée de bretelles qui lui est promise s'il ne retrouve pas au plus vite une foutue brassée de listings informatiques qu'il pourrait bien avoir, maladroitement, d'un clic de souris, envoyé se perdre à jamais. La crainte de se faire engueuler, une fois de plus, lui a dicté cet acte de vrai courage, car Bunny entretient avec son lit des liens d'amitié très étroits et souffre atrocement chaque matin d'avoir à les distordre.
7h42min56s.
Depuis presque 24 mois qu'il consacre plus d'un tiers de son temps de vie à la Melville Incorporated Limited, c'est la première fois qu'il se trouve seul dans l'immense ensemble de bureaux qui occupe tout un étage de la tour nord. Le silence complet qui règne sur ces lieux déserts ajoute à cette impression d'étrangeté du monde qu'il ressent depuis qu'il est éveillé. Il lui semble entendre respirer les dizaines de grandes plantes vertes qui font ce qu'elles peuvent pour rappeler qu'existe, assez loin d'ici, un autre monde fait d'autres choses que de verre et de métal. Un autre monde baigné d'une lumière dorée, toute différente de celle que distille ici une 50aine de rampes de néon.
7h49min46s.
Ça n'est pas parce que du travail vous attend qu'il faut absolument, et dans l'instant, répondre à son attente. Voici à peu près qui résume la petite philosophie personnelle de Bunny qu'on ne saurait pour autant taxer d'incitation à la paresse. Le travail n'est pas son ennemi, ni son ami d'ailleurs, mais plus simplement une chose, un élément constitutif de l'existence auquel il faut certes sacrifier une part de son temps et de son énergie, mais pas plus qu'il n'est nécessaire. Cette conception toute personnelle de la place du travail dans la vie n'épouse qu'assez mal celle de l'univers anglo-saxon et pas du tout celle de James Lewis, le big boss de la Melville. À l'occasion de la Saint-Sylvestre de l'an passé, ce sexagénaire à l'allure martiale rendant visite à ses bureaux new-yorkais a déclaré à ses employés que lui, James Lewis, self-made man, avait ordonné sa vie autour de 3 axes qui sont, par ordre d'importance, Dieu, son travail et enfin sa famille. Il avait ponctué la fin de son petit laïus d'un vigoureux coup de menton. On l'avait applaudi. Depuis, Jean-Michel cherche à persuader ceux qui n'en sont pas convaincus qu'il partage entièrement le point de vue du Big Boss. Mais rien n'y fait. Les rangs de ceux qui en doutent ne cessent de se garnir. Ses efforts sont vains ou à peine perçus. Bunny s'est taillé une réputation de dilettante qui n'est certes pas imméritée, mais que par bonheur, on lui pardonne, parce qu'il est le plus jovial et surtout le plus drôle de tous les employés. La protection de ce bouclier-là est faible. Bunny le sait, s'inquiète à chaque fois que le chef du service, ce pisse-froid de Bob Malcolm, s'attarde un peu trop longtemps dans les parages de son bureau. Le soleil levant lance ses éclairs dorés sur les baies de la façade est et c'est tout l'open space qui paraît s'animer. Debout devant l'immense verrière côté nord, Bunny admire le sud de Manhattan et cette forêt de tours, ces immenses stalagmites de verre qui risent la lumière du matin. Que pèse, se demande le garçon, ces quelques centaines de listings et ces quelques milliers de noms et de références par rapport à ce génie humain porté à l'excellence qui a permis la réalisation de ces bâtiments indestructibles et qui illustre la puissance de l'espèce. Ça lui prend comme ça, de temps en temps. Bunny soudain se met à éprouver des bouffées de fierté devant des œuvres ou des réalisations qui l'émeuvent. Des larmes peuvent alors lui monter aux yeux. Ce garçon est sensible, spontanément capable de s'émerveiller devant un coucher de soleil sur Staten Island ou devant un grand aplat rouge sang signé Rothko. Et il faudrait avoir un fichu mauvais esprit pour s'imaginer que ce matin-là, à 7h49 46 secondes, Bunny est plus admiratif des colonnes de verre dont la vie est hérissée que soucieux d'entreprendre la traque de ces saloperies de listing. Oui, vraiment, cela relèverait du plus mauvais esprit. Alors qu'il ne s'agit que de jouir de l'intense émotion que lui vaut cette vue panoramique qui s'offre à lui depuis le 94e étage. Et de rien d'autre. Les listings peuvent bien attendre, eux. Cette montée de lumière vive qui, pareille à une marée, ennoie lentement le sommet des tours, puis descend comme un bas sur une jambe féminine. Elle, non. Cela ne durera pas plus de quelques minutes et Bunny estime que nul n'est en droit de lui reprocher son désir de profiter encore un peu de ce qu'il ressent là, le nez collé à l'immense baie vitrée ouverte sur la splendeur du monde. Et puisque personne n'est encore arrivé, puisque nul ne saura qu'il s'est jeté, à peine entré, sur son ordinateur, ou bien s'il a pris le temps de déguster un café en s'amusant des tout petits humains qui fourmillent au bas des tours, Bunny finit de se persuader que rien, non, vraiment rien, ne presse, que le monde est beau, et qu'elle était bien sotte, cette idée qu'il avait tout à l'heure, que rien n'est à sa place aujourd'hui.
8h12 8 secondes.
Arrêté au pied de la tour voisine, un camion de couleur rouge attire son attention. Plusieurs autres véhicules arrêtés, eux aussi, l'entourent. Des éclats de soleil rebondissent sur les carrosseries et même, Bunny s'en amuse, sur les casques des pompiers. Un accident sans doute. Des bruits qui doivent sourdre de cet événement. Aucun ne parvient jusqu'à lui. Et cela donne une sorte d'étrangeté à cette petite scène de la rue. Vue de si haut, il est presque difficile de croire que des humains habitent ces petits points noirs qui vont en file au long des trottoirs.
8h17 14 secondes.
La porte de l'ascenseur s'ouvre en produisant une sorte de chuintement qui alerte Jean-Michel. En sort, non. Bunny pense avoir eu la berlue. Cette petite silhouette drapée dans un trench coat bleu. Mais c'est Allison. En trois sauts de cabri, elle est près de lui. Ne l'embrasse pas, ne lui tend pas la main, mais l'inonde de ce sourire qui, à chaque fois qu'il y a droit, plusieurs fois par jour, puisque leurs bureaux sont voisins, le bouleverse, lui donne l'impression qu'on vient, une fois encore, de le remettre sous perfusion de champagne. Ne reste plus assez de temps avant la fin de cette histoire. 29 minutes, exactement, et une poignée de secondes, pour l'entourer de toute la guimauve indispensable aux âmes sensibles auxquelles on raconte une histoire d'amour. Oui, Bunny et redingue amoureux d'Alison, à laquelle cela n'a pas échappé, mais qui n'en montre rien parce qu'elle doute fortement de ce qu'elle éprouve pour ce lapin voisin de bureau, et bien plus fortement encore des raisons qui pourraient la pousser, elle, pure petite wasp, descendante de colons allemands, protestants et héroïques, à répondre favorablement à ce garçon charmant mais sans fond, drôle et chaleureux, mais aussi plein de l'instabilité bien connue de cette curieuse variété d'humains appelée français. Bon, on ne peut taire non plus que la jolie brunette, même si elle se garde bien d'en rien laisser paraître, n'en éprouve pas moins en sa présence une sorte de petit vertige qu'elle persiste à croire inexplicable. Ce type est réellement charmant, pense-t-elle, quand lui vient le désir d'examiner les choses objectivement. Il n'a pas une once de méchanceté, n'a jamais dû faire le moindre mal à quiconque, n'a pas non plus les pieds parfaitement posés au sol, ni même beaucoup de logique dans son commerce avec la réalité. Mais quelle légèreté dans son absence de bon sens, quel repos dans cette distance prise avec le quotidien des jours. Et puis, mon Dieu, qu'il est drôle avec ses mimiques de rongeur apeuré, capable de réserver à celle qui s'éprendrait de lui une vie aussi inouïe que foutraque. Mais voilà que tu délires, ma vieille, et t'abuses. Et ne serait pas si bon de lui piquer sa place à celle qui pourrait s'éprendre du rongeur apeuré. Non, non, mais tu l'imagines tremblotant du menton sous les lustres de notre manoir de Cape Cod, les yeux rivés à ses godasses pendant que père, le vice-amiral, le terrible Charles Edmond Neubauer, de sa voix à couvrir le bruit des batailles, l'admonesterait pour avoir seulement osé sourire à sa fille, le vouerait aux gémonies avant de le flanquer à la porte à coups de pied dans le... Non, c'est vrai, mais il est si doux. Je n'ai jamais réussi à l'imaginer pris de colère. Et puis il est sincère et de toute façon incapable de tricher, parce que profondément lui-même. Oui, mais alors, emprunter, peut-être bien, mais ses yeux, en éclats de rire, qu'une ombre légère parfois traverse. Et cette façon de ne jamais rien prendre au sérieux. Qui t'a jamais fait rire ainsi, pour presque rien ?
8h23 minutes 34 secondes.
Tiens, Alison, je suis allé te chercher un café.
Merci, Jean-Mi, c'est gentil.
Bonnie adore la façon qu'elle a de prononcer son prénom. Cela donne quelque chose comme un Jean-Mi, Jean-Mi. Cela roule d'abord dans sa gorge, puis sourd comme un cocktail de mots frais et colorés. Pourquoi es-tu venu si tôt ?
Ben, pour t'aider, Beta. J'avais peur que tu ne t'en sortes pas du pataquès que tu nous as fabriqué hier. Et Malcolm t'attend au tournant, tu le sais.
8h, 29 minutes, 53 secondes.
Tu veux dire que tu t'es levé une heure plus tôt pour m'aider à retrouver ces foutus fichiers ?
Non.
Enfin, si, un peu.
8h. 29 minutes, 55 secondes.
Oh, Alison, soupir profond fait d'un mélange de surprise et de gratitude. Bunny voudrait exprimer ce qu'il ressent, dire combien il est touché, sensible à sa démarche, remercié. Les mots pour le dire restent coincés. Mais la journée n'est qu'à peine commencée, il aura tout le temps de lui faire comprendre combien il a été sensible à son geste et quelle importance il a pour lui.
8h, 30 minutes, 7 secondes.
Bon, allez, Bunny, on s'y colle au boulot. Oh non, attends un peu, viens finir ton café devant la grande baie, tiens. La lumière est tellement merveilleuse ce matin. Ah,
On dirait que les tours sont drapées d'or en fusion, que le soleil joue avec son reflet dans leur façade de verre. Ah, c'est vrai que c'est sublime ce matin. Je regrette de ne pas penser plus souvent à jeter un œil à l'extérieur. Et regarde, regarde, regarde en bas ces hommes et ces femmes qui trottinent au pied des tours. On dirait des fourmis. Hein? Oui, c'est ça que je l'ai pensé aussi.
8h, 36 minutes, 56 secondes.
Ils sont debout, côte à côte, les avant-bras posés sur la main courante qui ceinture le bas de la fenêtre. Ils se taisent, subjugués, émus par la puissance et la force qu'exprime ce paysage dont les éléments sont dus aux hommes, mais que l'intensité de la lumière transfigure.
8h, 39 minutes, 12 secondes.
La main gauche de Benny est à quelques centimètres de la main droite de Lou. Non, se dit Benny, jamais je ne retrouverai de moment plus favorable. Et pourtant sa main reste comme collée au métal. Non, je ne peux pas manquer de profiter. Elle est bouleversée par la beauté du spectacle. Avancer ma main, posée sur la sienne, n'y arrive pas. Benny, si tu ne te décides pas, c'est que tu n'es qu'un...
8h, 43 minutes, 54 secondes.
Regarde, John Mae, regarde cet avion, regarde comme il vole bas. Mais c'est vrai, tu as raison. Jamais vu un avion voler plus bas que le sommet des tours.
45 minutes, 11 secondes.
On dirait qu'il se dirige droit sur nous. Mais non, Allison, c'est impossible.
45 minutes, 36 secondes.
Tiens, Mike, j'ai peur. Je te dis qu'il fonce sur nous. Je suis là, Allison.
45 minutes, 39 secondes.
Allison s'est blottie contre le dos de Bunny. Ses bras entourent le buste du garçon. Ses mains sont crispées sur le vêtement de celui-ci auquel elle est comme soudée. Leurs deux respirations se confondent. La jeune fille éprouve le sentiment étrange d'un allongement du temps. Il lui semble qu'à la façon d'une pâte, celui-ci s'étire et que cet étirement est sans limite.
45 minutes, 48 secondes.
Le chiffre 100 s'inscrit dans la tête de Bunny. Oui, c'est sans doute à peu près ça. L'avion qui se dirige exactement vers eux ne doit plus être qu'à une centaine de mètres de la tour. 100 mètres, ça n'est presque rien pour un avion qui vole à... Bunny prend conscience de l'absurdité de ce calcul qu'il se sait incapable de faire. Tourne la tête vers l'intérieur des bureaux comme s'il en attendait du secours. 100 mètres. La chaleur du corps d'Allison contre son dos se dit que... Non, ne se dit rien. Rien en tout cas qui puisse ressembler à une pensée humaine, construite, structurée. Son propre corps lui est devenu étranger. Il a le sentiment de ne plus habiter cette forme dressée devant la vitre et qui s'accroche à la rampe.
45 minutes, 49 secondes.
Le nez du Boeing, maintenant, occupe toute la surface de la grande baie. Un grand disque argenté, barré d'une ligne jaune, divise en deux l'espèce de rostre qui pointe vers la vitre. Cela donne à l'avion quelque chose de commun, avec une variété de grands squales dont Bunny a vu récemment des images à la télévision. Cela lui donne l'air cynique d'un prédateur tout à fait insensible. « Bon Dieu, mais on va le prendre en pleine gueule !» murmure un Bunny que sa propre réflexion étonne. Elle est d'un autre, pense-t-il. Pas dans sa façon à lui de s'exprimer. En tout cas, les circonstances, oui, c'est ça. Ce sont les circonstances qui doivent expliquer ce changement. Il est bien vrai que les mots ne collent plus, n'adhèrent plus à cette actualité qui lui paraît suspendue, étirée, comme la pâte infiniment élastique à laquelle songe Allison.
50 secondes.
L'homme aux commandes de l'avion distingue très nettement la silhouette de Bunny campée derrière le vitrage. Il n'aperçoit pas celle d'Allison. La jeune femme est comme plaquée au dos de son compagnon, invisible depuis le cockpit. Que ressent-il en cet être tétanisé dont moins de 20 mètres le sépare? Voit-il un humain, un ennemi, une chose? Rien.
58 secondes.
Bruit terrifiant, ébranlement physique absolu d'une nature qui peut être rapprochée de celle du Big Bang. Quelque chose qu'un humain ne peut pas même imaginer, d'un ordre de grandeur impensable et dont rien ne pourrait révéler ni refléter la réalité. L'onde sonore est telle que la baie vitrée se pulvérise avant même que l'énorme rostre du Boeing ne l'ait touché.
0 secondes.
Vous venez d'entendre un texte choc, une nouvelle de Jean-Paul Delessart. On va se le prendre dans la gueule. C'en était le titre. Un titre choc aussi dont vous comprendrez bien sûr que je m'étais abstenu de le citer dans ma présentation. À noter également que l'accompagnement musical du compositeur américain John Adams, avec ce titre sur la transmigration des âmes que vous avez entendu, est une œuvre de commande créée le 19 septembre 2002 à New York et conçue selon l'auteur non comme un requiem, mais comme un espace de mémoire dédié aux victimes. Vous aurez reconnu aussi la chanson « Manhattan Kaboul » par Renaud et Axel Red, chanson militante pétrie d'humanité, créée elle aussi dans le contexte des attentats du 11 septembre 2001. La plume est à vous, c'est terminé pour ce soir. Nous nous retrouvons dimanche prochain à 21h comme d'ordinaire pour une nouvelle émission. N'hésitez pas à m'adresser vos textes, plume@bretagne5.fr. Merci à Frédéric Guillon qui a œuvré aux manettes pour réaliser, comme d'habitude, avec talent, cette émission. Passez, chères auditrices et chers auditeurs, une très belle nuit, suivie d'une très agréable semaine. À dimanche prochain et d'ici là, portez-vous bien.
Pour écouter les émissions de Bretagne 5, rendez-vous sur notre site internet bretagne5.fr.